Marie-France Guimard-Roche vous propose, dans le cadre de son émission originale « Bienvenue chez le roi », une saga historique et romantique, « Les Lumières de l'amour » dont elle est l'auteur. Roland Richard enregistre et réalise ses émissions dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Marie-Angélique et Victor Casbecq ont quitté Saint-Pétersbourg après la disparition de l'impératrice Catherine pour venir vivre à Moscou et viennent souvent retrouver leurs enfants tout à côté, à Grebnevo, où ils passent des jours heureux. Voyant la tournure désagréable que prenait la vie à Saint-Pétersbourg, Victor, dont les fonctions de conseil auprès de la souveraine avaient pris fin avec elle, avait décidé de quitter la ville et de s'installer dans son palais moscovite. Alexandre et Françoise ne tarissaient pas d'éloges sur cette magnifique demeure et ils les avaient encouragés à s'y installer, arguant la proximité de Grebnevo. Marie-Angélique avait accepté d'enthousiasme, ravie de la perspective de retrouver souvent ses petits-enfants, Dimitri et Églantine, et ses vieux amis, Anne et Bertrand de Ruillé, avec toute leur progéniture. Le palais qu'avait fait construire Oleg Kazbek à Moscou était en effet magnifique. Idéalement situé au cœur du plus beau quartier de la ville, il dressait fièrement sa façade palladienne au coin des rues Povarskaya Ulitsa et Nikitskaya, toutes deux bordées de somptueuses demeures. Françoise et Alexandre Kazbek avaient pris grand soin de cette maison, où ils revenaient souvent, et avaient laissé sur place une importante domesticité, dévouée et efficace. Et c'est avec un très grand plaisir que les princes s'étaient installés dans leur nouvelle demeure. Il n'empêche, ce soir, en dansant dans les salons de Grebnevo avec leurs amis très chers, Marie-Angélique rêvait encore de la France, des Ormeaux et de Versailles. Elle croisa furtivement le regard de Victor qui la connaissait si bien et ne put dissimuler les regrets qui l'étreignaient. Au rythme de la valsen, il plongea dans les yeux myosotis de celle qui resterait à jamais sa duchesse adorée. « Ma chérie, je sais très bien à quoi vous pensez en cet instant. Moi aussi, je regrette le passé. Mais après tout, je crois que nous devons nous satisfaire de tout ce que nous avons eu la chance de vivre ensemble. Rien ne s'effacera jamais. Le croyez-vous vraiment ? » demanda-t-elle. « N'avez-vous ni regret, ni remords ? » ?»« Non. Seulement le remords de n'avoir pas réussi à convaincre la princesse de Lamballe de fuir au plus vite, alors que la reine elle-même l'a supplié de le faire. Il me semble que j'aurais dû insister. » Voire même la forcer à quitter la France. J'aurais pu ainsi lui éviter cette mort atroce. Quant à moi, je n'ai pas oublié le souvenir de cette nuit étrange, dit-elle. Un peu magique, passée en la compagnie d'Axel de Fersen. Je pense aux efforts qu'il a déployés pour organiser la fuite de Marie-Antoinette et de la famille royale, et au chagrin qu'il a dû éprouver lorsqu'il a su la fin tragique de celle qu'il aimait. Je regrette, vraiment, de ne pas l'avoir revue. « On m'a rapporté, dit Victor, quelques échanges épistolaires qu'il a eus avec la souveraine. En particulier, la toute dernière lettre que Marie-Antoinette lui a adressée le 4 janvier 1792. « J'en connais la teneur. Je la connais par cœur, argua Marie-Angélique, qui se mit à la réciter, les yeux clos et la voix pleine d'émotion. Je vais finir, non pas sans vous dire, mon bien cher et tendre ami, que je vous aime à la folie et que jamais, jamais, je ne peux être un moment sans vous adorer. Ils sourirent pourtant à leurs amis en dansant le quadrille qui venait de commencer et se réjouirent avec eux de ce que tout cela soit fini. Dehors, les artificiers s'affairaient, au beau milieu de la pelouse, juste devant les fenêtres du grand salon où l'orchestre jouait. Sur un signal du maître de maison, les fusées multicolores éclatèrent. Avec des cris de surprise, les danseurs s'immobilisèrent avant de se précipiter vers les hautes fenêtres qui ne dissimulaient rien des gerbes de lumière. Le ciel noir semblait s'embraser de milliers d'étoiles scintillantes qui éclataient à grand bruit au-dessus des frondaisons du parc. Comme jadis, à Versailles, dans une autre vie, Victor et Marie-Angélique se tinrent l'un près de l'autre. Ils étaient sortis sur la terrasse malgré la fraîcheur du soir pour regarder le spectacle. Puis, lorsque la dernière fusée se fut éteinte et la dernière lueur évanouie, ils s'embrassèrent avec la même fougue que dans les jardins de Lenôtre, sans se rendre compte que leurs amis s'étaient regroupés autour d'eux. En les entendant applaudir le joli couple qu'ils formaient, Marie-Angélique se sentit rougir de confusion, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Sans la laisser s'évader de ses bras, Victor éclata de rire. « Eh bien, mes amis, vous connaissez mon secret. J'aime ma femme à la folie. » « Croyez-vous, mon beau prince, dit Marie-Angélique, que nous avons encore l'âge de cette folie ?» « Certes, mamie, nous avons vieilli. Et vous aussi, dit-il en se retournant vers les autres. La chance que nous avons tous, argua Bertrand de Ruillé, c'est d'avoir vieilli ensemble. Donc, nous ne nous apercevons pas de l'outrage des ans. fort clément pour vous autres, mesdames, continua-t-il en baisant galamment la main d'Anne. Sur l'herbe, près d'eux, les danses paysannes reprenaient de plus belle, les jolies jeunes filles aux jupes en corolles aussi rouges que leurs joues, aux pommettes hautes, couronnées du ruban multicolore, passaient et repassaient sous les arceaux fleuris que tenaient leurs amoureux dans une farandole qui ne finissait pas, longeant les nombreux feux de bois allumés. Tout à coup, une gerbe d'étincelles jaillit de l'un d'eux et embrasa la large frange du châle de Marie-Angélique. Elle eut un cri d'effroi, tandis que Victor se jetait sur elle en la roulant vigoureusement dans l'herbe mouillée de rosée. « Victor, mais que faites-vous ? Je vous sauve la vie, ma chérie !» Malgré la position inconfortable dans laquelle il se trouvait, le prince, faisant un rempart de son corps vigoureux à sa dame, ils éclatèrent soudain de rire en se découvrant, le visage plein de noir de fumée, couché dans l'herbe. « Décidément, dit Marie-Angélique avec humour, nous aurons passé les plus beaux moments de notre vie couchés par terre dans les bras l'un de l'autre, dans les bosquets de Versailles, sur une plage de Cassis, ou même ici, au fin fond de votre Russie. » « Certes, dit-il, mais je doute que notre aventure de ce soir se termine comme toutes les autres. Croyez que je le regrette. » « Vous n'avez rien ? S'inquiéta-t-il en la relevant doucement ?» Elle tapota sa jupe dans un geste qui lui était machinal. Et ce geste suffit à la faire tomber sur le sol. Le châle avait brûlé entièrement, ainsi que sa robe, dont la lourde étoffe l'avait protégée. Et elle se retrouvait en chemise et en bas. Sans s'émouvoir pour autant devant tous les invités qui admiraient sa silhouette, elle se drapa avec une nappe dont elle fit une toge et prit en souriant le bras de Victor avant d'aller se changer prestement dans leurs appartements. L'instant d'après, ils redescendaient le grand escalier sous de nouveaux applaudissements. Marie-Angélique, en regardant les marches de pierre sur lesquelles glissaient ses souliers de satin, avait le sentiment de vivre un moment privilégié, exceptionnel même. L'instant magique vers lequel on tend toute sa vie. Mais elle se rendait compte aussi que toute courbe, même celle du bonheur, avait son apogée. Et c'était bien là le problème. Elle savait très bien que le déclin succédait inexorablement à cet apogée. elle serra encore plus fort le bras de Victor qui la regarda avec amour, au risque de manquer une marche. En bas du grand escalier, tous leurs amis s'étaient regroupés. Ils les entourèrent en applaudissant à nouveau à tout rompre pour leur dire tout à la fois leur admiration et leur amitié, indéfectible et éternelle. Dans le grand salon, la musique avait repris de plus belle. La musique de Wolfgang, Amadeus, Mozart donnait à cette nuit une élégance qui allait de pair avec la fulgurance des morceaux traditionnels que les musiciens de Grebnevo exécutaient dans le parc. « S'il vous plaît, accompagnez-moi, Victor, je voudrais sortir un peu. » Attentionné, le prince posa sur les épaules nues de Marie-Angélique une cape de fourrure blanche et sortit avec elle. L'air était frais. Dans la nuit noire, la pleine lune éclairait le haut des arbres et le brouillard qui commençait à envahir les bois dessinait des silhouettes fantomatiques. Ils marchaient, côte à côte, main dans la main, et s'éloignèrent du château. « Vous êtes bien silencieuse, ma chérie. Vous rêvez ?»« Non, je songeais. Je crois que ce soir, tous mes souvenirs me reviennent en mémoire et mes regrets aussi, hélas. Je pense à tous ceux que nous avons connus et aimés, tellement différents et si proches à la fois, éloignés de nous et que pourtant nous gardons dans nos cœurs. Les Ricazzoli, au Broglio, en Toscane, les Albizzi, à Cassis, en Provence, les Beloselski et les Kildare, à Castel Townhouse, en Irlande, votre famille au Palais Stroganov de Saint-Pétersbourg, et tous les miens, les Ladoucel, au château des Ormeaux, mes amis si chers aussi, la Vardin, la Danière, Ruillé, et mon amie, ma sœur, Anne Augier de Maintenon. Vous avez raison, Marie-Angélique, je rends grâce au ciel d'avoir vécu toutes ces années au milieu d'eux. Nous avons traversé bien des épreuves ensemble et les joies, comme les peines, nous ont rapprochés et soudés à jamais. La famille, l'amitié, l'amour, voilà ce qu'est véritablement la vie et qui la rend si belle. « C'est étrange, mon ami, dit-elle. Dans ce brouillard lumineux qui nous entoure, je me sens un peu comme au paradis. Quelle curieuse sensation !»« Et moi, dit-il, qui ai toujours pensé que vous aviez peur de la nuit. » « Je le croyais en effet, mais je me trompais. En réalité, je suis sereine. Oh, bien sûr, cette sensation, je vous la dois, puisque vous êtes là, près de moi, et que je sens avec délice votre baiser dans mon cou. » Derrière eux, au loin, on entendait encore le son des violons, tandis que Marie-Angélique et Victor marchaient lentement au milieu du chemin moussu. « Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre, dit-elle soudain, mais je jure de profiter de toutes les secondes de bonheur qui me seront encore données. Je vivrai désormais chaque jour comme s'il devait être le dernier. » Sans s'en rendre compte, ils étaient arrivés à la croix du carré, au bout de la grande allée. Ils firent demi-tour et revinrent vers Grebnevo, guidés par la lueur des torches qui brûlaient encore sur les pelouses et les bougies des lustres du grand salon. Les couples continuaient de danser jusqu'au bout de la nuit. Soudain, l'orchestre reprit un air qu'elle adorait, l'andante du concerto en la majeure de Handel, qui avait accompagné les moments les plus heureux de sa vie. Cet air lui donnait un sentiment de plénitude extraordinaire, le sentiment profond d'un bonheur qui perdurait inexplicablement, alors qu'un proverbe qu'elle abhorrait disait « Tout passe, tout lasse, tout casse ». En cet instant, au soir de sa vie, elle savait que c'était faux, que l'adage mentait. Elle en avait désormais la certitude, puisqu'ils étaient encore là tous les deux, que leurs enfants et leurs petits-enfants continueraient à vivre, à être heureux, et qu'eux-mêmes resteraient vivants tant que l'on continuerait à penser à eux et à les aimer. Marie-Angélique savait désormais que leur souvenir serait toujours vivant et que même la mort ne pouvait rien contre les lumières de l'amour. Thank you. chers auditeurs de Bienvenue chez le Roi, je viens d'enregistrer le dernier chapitre du 4e tome de ma saga « Les Lumières de l'amour ». Je dois vous avouer que je quitte mes personnages avec regret. Si Dieu me prête vie, je crois que je me lancerai bientôt dans un 5e tome. Mes héros, si vous les aimez autant que moi, reviendront sur les ondes de Radio Grand Ciel, j'en suis certaine. En réalité, j'ai aimé retrouver beaucoup de mes souvenirs tout au long de ces pages. Je remercie de tout mon cœur Émilie Glory, directrice d'antenne de Radio Grand Ciel. Sans elle, ces livres n'auraient tout simplement pas existé. Merci aussi à Roland Richard, qui a enregistré tous les épisodes de cette saga et qui les a réalisés pour vous. Tout est parti de Versailles. Alors, j'y retourne avec vous pour mettre un point final à mon rêve. La dernière fois que je suis allée à Versailles, c'était un jour de la semaine, de bon matin. La ville s'éveillait à peine, il faisait beau. Aucun nuage. Quand je franchis la très haute grille du parc entrouverte et alors que mes pas crissaient sur les graviers, j'ai été éblouie par le premier rayon du soleil qui caressait le trident doré de Neptune. Le silence m'a accueillie, à peine troublé par les battements d'ailes du vol des canards sur le bassin, un peu figé par le givre de ce matin d'hiver. Une brouette de jardiniers remplie de feuilles mortes était adossée à une haie, mais de jardiniers, point. En fait, j'étais seule. J'ai fait le tour du bassin de Neptune pour remonter la grande allée bordée d'ifs taillés en taupière, parfaitement triangulaire, blanc de neige, aligné comme dans une parade militaire. De chaque côté, les bosquets au nom romantique, le bosquet des Dômes, le bosquet des Bains d'Apollon, le bosquet de la Colonnade, le bosquet de l'Encelade. La brume matinale enveloppait les arbres telle une mousseline arachnéenne, tandis que les rayons obliques du soleil traversaient les branches. J'avançais vers le château que je devinais à peine et je réalisais là que toutes les allées montaient vers lui. Je marchais avec précaution, essayant machinalement d'atténuer le bruit de mes pas et je finis par abandonner le milieu de l'allée pour la bordure de la pelouse mouillée de rosée. La magie du lieu agissait et j'imaginais sans aucune peine toute la cour se promenant là avec moi. À droite, à gauche, seules les statues stoïques dans leurs robes de pierre m'accompagnaient jusqu'au pied de la grande terrasse, jusqu'aux balustres surmontées d'immenses vases Médicis. Arrivé là, je m'arrêtais saisi. Le château de Versailles émergeait tout à coup de son manteau de brume et soudain resplendissait sous le soleil d'hiver. Je pris sa beauté absolue en plein cœur.